Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez désormais, tous les jours de la semaine, je vous retrouve en solo et en direct entre 13h et 15h. Et quand le week-end arrive enfin, je suis ravi de retrouver mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Emmanuel, coup de projecteur cette semaine sur les plus belles autos du monde. Bien sûr, celles qui roulent déjà, mais aussi celles qui ne roulent pas encore. Ces fameux concept cars, des concept cars à découvrir au Festival Automobile International. Il se tiendra du 27 au 31 janvier aux Invalides à Paris, et des concept cars qui nous seront dévoilés dans un instant par nos invités. Rémi Depoix, le fondateur de ce festival, la créatrice Chantal Thomas, qui fait partie du jury des prix du festival, mais aussi le directeur du Strat École de Design, Mike Lévy, et Mathias Hossan. Il est responsable concept car chez Peugeot. Allez, pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, Emmanuel, traditionnellement, on commence par la table de la semaine.
La table de la semaine, à quelques jours de la Fashion Week, une table qui devrait, à mon avis, aiguiser et aimanter tous les petits becs de la mode et de la couture, car on doit bien le reconnaître, il y a un côté très tribal dans la gastronomie parisienne. Alors, nous sommes au 1 rue du Montabor, premier arrondissement à deux pas de la place Vendôme, en plein dans le mille de ce qui fait, effectivement, ce qui agit tout le monde de la couture et de la mode. Et notamment, l'instant des tables. Ça s'appelle Taokan. Il y avait déjà une adresse rive gauche, elle s'installe rive droite. Taokan, c'est une adresse qui s'amuse à croiser dans le décor comme dans l'assiette la cuisine sino-vietnamienne et le côté un peu citadin des choses. Alors c'est pas mal parce qu'en vérité, ça offre comme une nouvelle cuisine au monde et à la gourmandise et aux saveurs sino-vietnamiennes. Alors beaucoup de dim sum, beaucoup de plats chauffés. Alors tous les grands standards, vous savez, du chinois du quartier, mais j'allais dire monter sur talon aiguille. Plutôt bien fait avec un vraiment bon point, une belle mention aux accompagnements. On n'est pas simplement dans la nouille sautée et dans le riz cantonais, mais là il y a un travail notamment sur des légumes, parce qu'en fait il y a un vrai travail aussi dans ce monde-là autour du potager, notamment avec des épinards travaillés en sauce cacahuète, plutôt réussi, du travail sur les aubergines. Donc en fait, cette adresse qui pourrait se vouloir un petit peu show-off, derrière, en creux, il y a quand même véritablement de belles choses. Et puis ce qu'il y a d'assez drôle, c'est qu'il y a des petites guéguerres, vous savez, comme entre les maisons de couture, dans la même rue du Montabor, il y a une adresse dont on parle souvent ici, c'est Kinugawa, qui il y a quelques saisons avait inventé le croisement, lui, du côté mondain des choses et de l'exotisme nippon. Donc toujours le côté asiatique qui vient réveiller le côté mode, si vous suivez toujours. Désormais, il y aura un combat entre Kinugawa, pour ceux qui veulent être voir et être vus, et Shao Kahn, dans la même rue du Montabor. Mais globalement, avec les prix qui vont avec, il faut bien le reconnaître, là encore, monté sur talon aiguille, deux belles adresses.
Allez, des nouvelles boutiques à gogo. En ce moment, dans Paris, je commence pour vous donner envie d'aller retrouver les pistes enneigées, puisque la neige est enfin là. On a reçu il n'y a pas longtemps, sur le plateau de Good Luxe Paris, Rossignol, qui a lancé sa première collection citadine chic à Milan. Et vous avez aussi Fusalpes,
marque. Quelle adresse.
Bien sûr,
du
fuseau, c'est elle qui l'a inventé quand même, ce fameux fuseau, en 1952 à Annecy. Elle a été reprise par les enfants de la famille Lacoste, cette marque, et donc elle ouvre un premier showroom à Paris. Et de la même façon, elle a lancé une collection citadine chic. On rappelle quand même qu'elle a habillé... Il y a un vrai savoir-faire technique derrière. Elle n'oublie pas à chaque fois ses marques, ce savoir-faire technique. Elle a habillé l'équipe de France Olympique de 1964 à 72. Et là, on a une gamme premium, pas grand luxe, même si on trouve encore une petite veste de ski avec un col en renard de Sibérie à 1 400 €. Sinon, on est plutôt dans les 600-800 €. Et c'est vraiment pour un usage urbain. Donc, on retrouve tous les fondamentaux de la technique Fusalpes, mais qui descend dans la rue. Et puis une deuxième petite adresse rapidement, c'est la marque de mode pour enfants Gabriel et Valentin qui inaugure une première boutique 5 rue des Saint-Pères dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est une griffe haut de gamme pour enfants. On avait reçu il y a quelque temps sa créatrice Nathalie Semama. Elle est déjà présente au Bon Marché. Et donc là, elle a sa première boutique rien qu'à elle pour cette gamme pour enfants. So chic. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Sandy Prenoir.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous vous êtes intéressée pour changer aux hommes.
aux hommes pour changer. Pourquoi vous dites ça? Je comprends pas.
Parce que, ouais.
Non, je me suis intéressée à toutes les nouveautés web. Il y en a pas mal. Je vous parle de trois sites aujourd'hui. D'abord, la chemisefrançaise.fr, des chemises haut de gamme, effectivement, pour hommes, fabriquées uniquement en France. Un bureau de style situé à Saint-Tibéry dans l'Hérault, un atelier de confection à Bressuire dans les Deux-Sèvres. J'ai l'impression de faire la météo. Le créateur de cette marque s'appelle Richard Préau. En fait, il a commencé en Angleterre. Il a fait un stage. Il est resté auprès d'un confectionneur de chemises. Il est revenu en France, décidé à lancer son affaire, et c'est une affaire qui marche. La chemise française vous propose trois collections différentes, une collection très chic pour le boulot, etc., une autre qui s'appelle Weekend avec des coupes un petit peu plus sportswear, et puis une Liberty avec des coloris un petit peu plus originaux, fleuris. L'acte d'achat est super bien mené parce qu'on a vraiment des équipes qui s'occupent de vous 6 jours sur 7, qui répondent à toutes vos questions, qui sont à vos petits soins, et puis une belle présence sur les réseaux sociaux avec un blog, avec des idées de style, etc., les coulisses de la création française. Voilà.
Voilà. Après le slip français, la chemise française.
C'est bon, il y aura la chaussette française, le chapeau français.
Ceci dit, vraiment, le Made in France, ça s'applique à tout, et même aux cosmétiques.
Aux cosmétiques, universal de bain. Là, ça s'appelle lamazuna.com. La créatrice, c'est Laetitia Van de Val. Elle a imaginé tous les produits dont on peut servir dans la salle de bain, version green, donc sans déchets, sans matière animale. C'est vraiment, on a presque envie, presque, d'acheter un dentifrice solide pour se brosser les dents. Visiblement, ça marche.
Presque.
Ouais, c'est pour ça que les coffrets s'appellent zéro déchet.
Ça ressemble à un bâton d'esquimau, en fait.
C'est ça. On frotte sa brosse à dents dessus et on vient se brosser les dents ensuite.
Ah, c'est pratique quand t'es pressé.
Ouais, bon, en tout cas, c'est écolo. Oui. Et du coup, le site reverse aussi, ce qui est plutôt pas mal, 2% des ventes à une, c'est pas une association, mais c'est un projet en Amazonie qui va replanter des arbres pour la biodiversité, créer du cacao, tout ça. Bon, bref, c'est à la mode, ça marche, on apprend ce que ça veut dire vegan, parce que tout le monde le dit, mais moi, du coup, j'ai cliqué un peu sur Wikipédia, j'étais là, voilà. Voilà, non, c'est plutôt pas mal.
Et l'autre, on y pense en se rasant, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et elle utilise les chemises, en tout cas, les chemises upcyclées, comme on dit, pour en faire des petites pochettes cadeaux. Et
oui, le c'est vrai, point, c'est vrai aussi.
C'est assez drôle quand même parce qu'elle est allée chercher très loin ses concepts, ouais, à tester, ouais, donc sur lamazuna.com.
Enfin, très loin dans sa tête.
Un petit coup d'œil, mais il faut tester.
Emmanuel, faut tester, bah non, mais attendez, il y a qu'un réac quand même.
Woup. Woop, avec trois O. Woop, c'est un site un petit peu rigolo qui va travailler uniquement avec des artistes, designers, graphistes. On a de tout, on a des vêtements, des objets maison, des bols, des coques d'iPhone. Mais alors ça va être vraiment des phrases, des designs très particuliers, des traits, on les voit un petit peu comme ça, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu Jones, tout ça. Et ils ne travaillent que pour, entre guillemets, montrer, présenter des artistes, de vrais artistes, pas simplement des gens qui font du coloris.
Des graphistes, beaucoup.
Voilà, graphistes. On a des artistes comme Jamie Mitchell, qui est très connu à Londres, Animal Crew, Alfred le Français, Chris Tate, Les Barbus. C'est un joli site avec quelques produits assez rigolos, étonnants. Allez voir.
Des produits à message, souvent.
À message, souvent, effectivement.
Sur Whoops.
Whoop,
pardon, www.oop.fr. Merci beaucoup.
Merci à
vous. À la semaine prochaine. Allez, on le disait, des boutiques à gogo. Et
ça
notamment
reprend, oui.
Du côté de chez Montblanc.
Du côté de chez Montblanc, 12 boulevard des Capucines, pas très loin de la Madeleine, entre l'Opéra et la Madeleine, tout près de l'Olympia. Montblanc, on ne présente plus. Quand on dit Montblanc, on répond stylographe.
Bien sûr.
C'est un peu leur souci, justement. C'est que quand on pénétrait dans les boutiques Montblanc, il y avait un peu cet univers qui était omniprésent, omnipotent. Or, on sait très bien, on l'a souvent invité, cette maison, sur notre plateau et sur notre antenne. Montblanc, c'est beaucoup plus que ça. C'est de la maroquinerie, c'est désormais de l'horlogerie. Et là, ils ont voulu redessiner, réinventer leur boutique, 100 mètres carrés, 2 étages. Au design, l'un de vos chouchous, Noé Duchaufour-Laurence, qui justement a orchestré un espace où tous les univers de la marque Montblanc vont être mis en valeur. Bien évidemment, toutes les pages d'écriture, c'est le cas de le dire, les stylos, le papier, mais également la maroquinerie, l'horlogerie. Et c'est conçu vraiment, c'est une boutique très interactive, avec 2 instants forts. Je pense que c'est un petit peu un bar qui s'appelle le bar manufacture, où vous pouvez échanger avec les experts de la maison. Et puis surtout, le salon des collectionneurs, c'est un petit salon, un petit espace, dans l'état, où on va présenter toutes les collections collector et toutes les sérénités de la maison. C'est plutôt réussi et surtout, ça met en perspective un petit peu le savoir-faire de la maison qui ne se réduit pas aux seules plumes et billes et stylos.
12 boulevard des Capucines.
Moi,
dans
j'ai
9e arrondissement
bien aimé.
Pour Montblanc. D'autant plus qu'on se demande si c'est pas un peu passé la mode des stylos, parce que vous savez qu'en catimini, Louis Vuitton a fermé sa boutique papeterie stylo du côté justement de Bordeaux.
Niche, mais il n'y a pas tout le monde dans la niche. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a un tout petit corner qui, lui, travaille chez Montblanc sur les stylets. Vous savez, ceux qui accompagnent toutes les tablettes et compagnie. Et là, les stylets, alors, c'est le comble du snobisme, stylet Montblanc.
Allez, rapidement, on va terminer quand même avec deux autres boutiques. Philippe Model, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Philippe Model, il travaille dans la chaussure, la décollection de chaussures, mais aussi surtout sur la couleur. Et donc là, il s'est offert sa première boutique de décoration, rue Condorcet, justement, là aussi dans le 9e arrondissement de Paris, où on retrouve tout ce qui fait l'univers de ce fan de la couleur en termes de décoration. Ça part dans tous les sens, mais en tout cas, c'est un véritable arc-en-ciel que l'on retrouve. Et puis, pour revenir du côté de la place Vendôme, Buccellati, pas de la place Vendôme justement, parce que Buccellati, le fameux joaillier italien, avait quitté la place Vendôme, ça avait fait beaucoup parler, et en fait ils sont pas très loin, ils sont au 1 rue de la Paix, mais il paraît que ça change tout.
Ah, ça change tout, hein.
Plus de 200 mètres, et c'est vraiment un nouveau concept de boutique qu'ils ont développé à travers le monde, et on a là la joaillerie, l'horlogerie, et aussi l'argenterie chez Buccellati.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils étaient place Vendôme, c'était les plus discrets parmi les discrets. On les voyait à peine, quasiment pas. Depuis qu'ils sont déménagés à quelque part rue de la Paix, soudain, ils s'expriment, ils sont expansifs, on les voit vraiment. Donc finalement, peut-être que le déménagement de ce sacro-saint, de ce saint du saint de la place Vendôme, va leur faire du bien et leur permettre d'avoir un petit boost.
Allez, je termine avec l'objet de la semaine. Qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez les petits biberons pour petites filles qui se remplissent de lait artificiellement? Et bien là, c'est un petit peu la même chose. En fait, cette boîte en plexiglas rose, elle s'ouvre. Voilà. J'ouvre ma boîte.
Oui.
Et quand je la retourne dans l'autre sens, le liquide qui est entre les deux parois cache ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte.
C'est une sorte de new design boîte à secret.
C'est une boîte à secret. On ne voit pas. Vous la remplissez, vous mettez ce que vous voulez dedans, vous fermez le couvercle, hop. Vous la mettez à l'envers, on ne voit plus ce qu'il y a dedans. C'est une boîte à secret. C'est assez drôle. C'est le petit clin d'œil. Le salon maison et objets, salon professionnel de la déco se tient encore d'ailleurs ce week-end. Et donc, on a par exemple le designer Marc Venot. C'est marrant parce qu'il est passé, il a un diplôme de mathématiques et physique à Jussieu. Puis après, il s'est lancé vers le design et présente entre autres cette boîte à mystère qui s'appelle Secret, qu'il a réalisée pour Lexon. Le produit sera vendu à 25 €, ça existe en plusieurs couleurs, là je l'ai en rose mais vous avez d'autres couleurs. Il a fait aussi vraiment des objets super drôles, une fève et une couronne, c'était, vous savez, c'était la galette des rois, 50-50 pour le projet roi et reine organisé par les Didès. Donc en fait c'est une petite fève blanche et vous avez la petite couronne à l'extérieur et la fève à l'intérieur. Donc ça, c'est une première chose. Et là arrive la chandeleur, la prochaine étape en gastronomie, c'est la chandeleur. Et donc, pour Mastrad, il a inventé une poêle à crêpes tellement plate qu'elle fait aussi plancha.
D'accord.
Et il est malin, hein.
Mais c'est étonnant ce monsieur-là.
Il est assez étonnant sur du pratique.
Vous avez caché quoi là, dans votre boîte là?
Eh ben j'ai rien caché.
Vous n'avez rien à cacher, bien sûr. C'était effectivement tout cela manœuvré pour dire que vous n'avez rien à cacher.
Dans un instant, c'est la suite de Good Luxe. À tout de suite sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
C'est dédié au design automobile cette semaine à l'occasion du Festival Automobile International qui se tiendra le week-end prochain aux Invalides à Paris. Nous sommes en compagnie de Rémi Depoix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de ce festival. Nous sommes également en compagnie de la créatrice et créatrice de lingerie, notamment Chantal Thomas.
Bonjour.
On vous expliquera dans un instant pourquoi elle est avec nous aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Mike Lévy, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département transport de Strat École de Design. Donc nous sommes également en compagnie de Mathias Hossan, bonjour.
Bonjour.
Responsable concept car chez Peugeot. Ce festival automobile international, non seulement vous remettez des prix, on va y revenir dans un instant, Rémi Depoix, mais l'idée c'est de présenter aussi au grand public ce qui se fait de plus beau en termes de design automobile, en termes de concept car, en termes des voitures qui sont déjà sorties aussi, de voitures qui sortent de la tête de ces messieurs. C'est bien ça l'idée?
C'est bien ça l'idée, c'est de mettre en valeur le talent des designers, le savoir-faire des constructeurs automobiles au travers des concept cars qui sont l'aboutissement absolu des recherches en matière de design. Et donc nous réalisons cette exposition chaque année aux Invalides. Elle est unique au monde parce qu'il n'y a pas d'autres exemples. On fait venir des concept cars du monde entier qui sont parfois présentés dans des salons avant, mais cette année par exemple on a des premières exclusivités mondiales.
Par exemple
Renault va présenter un modèle en première exclusivité. Nous avons des premières exclusivités européennes avec une Mazda RS qui vient spécialement de Tokyo pour notre événement, ou d'autres Porsche, par exemple la Mission E, qui est un véhicule électrique absolument incroyable, qui n'a jamais été présenté à Paris, et c'est aussi des premières exclusivités.
Alors, unicité de votre salon, vous le dites vous-même, mondial, et en revanche, 31e Festival International, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques saisons, depuis qu'il est installé, j'allais dire garé, parqué du côté du plus beau parking de la capitale, voire du monde, l'esplanade des Invalides. Mais aujourd'hui, le fait d'être ouvert comme ça au public, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, votre festival, effectivement, a 31 éditions, mais on en parle depuis quelques saisons d'abord, et surtout, avant, c'était un peu discret, vous étiez entre vous.
Alors, c'était plus discret, effectivement, il n'y avait pas d'exposition publique, donc on s'auto-congratulait en remettant des prix. Bon, maintenant, c'est public, c'est différent. L'ambiance aussi est différente. On parle beaucoup plus de design depuis une dizaine d'années qu'on ne le faisait avant. Donc, on est un peu dans le sens du vent aussi par rapport à notre événement, où on a toujours fait l'apologie de la beauté, de l'émotion, de la passion automobile. Ça a toujours été le maître mot. Mais maintenant, d'avoir décidé, il y a une dizaine d'années maintenant, de faire cette exposition de concept cars. Pourquoi? Parce que dans les salons publics, les concept cars, ce sont toujours les véhicules qu'on regarde le plus. Le public est aimanté vers les concept cars parce que ce sont des modèles uniques, c'est très exceptionnel, ça préfigure l'avenir de l'automobile.
Et un peu plus d'ailleurs.
Ça habitue l'œil des consommateurs à des lignes nouvelles que les constructeurs veulent exprimer. Donc il y a vraiment, c'est autour des concept cars que ça se passe.
Et l'idée aussi, Rémi Depoix, c'est que justement, on sort de l'univers automobile. Vous remettez des grands prix, de plus belles voitures de l'année, de plus belles intérieurs, de tout ça. Ça sera remis le 26 janvier, juste la veille de l'exposition du 27. Et votre jury, il est présidé par Jean-Michel Villemotte, quand même architecte, et vice-présidé par la créatrice Chantal Thomas, ici présente. Pourquoi, on ne va pas énumérer tout le reste du jury, mais voilà, on voit bien qu'on sort aussi de l'univers de l'automobile et qu'aujourd'hui, le design automobile intéresse tout le design, finalement, tous les créateurs.
Tous les créateurs, et Chantal, qui nous fait l'amitié d'être dans ce jury, d'être vice-président depuis un certain nombre d'années, nous apporte un regard formidable. D'abord, le talent que Chantal a en matière de mode, mais aussi de tout son, avec le recul, tout ce qu'elle peut apporter dans les délibérations du jury, d'un regard féminin et très très subtil sur le design automobile. Jean-Michel Villemotte, qui est un architecte célèbre, lui aussi a un regard très 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 affiné sur le design en général, sur la beauté, et c'est ce qui fait l'intérêt de conjuguer ses talents dans ce jury.
Chantal Thomas, justement, oui. Il a parlé de regard féminin. Est-ce que vous portez un regard féminin sur l'automobile ou un regard de créatrice? Lequel l'emporte, moi, je pense? Les deux.
Les deux, oui. C'est vrai, quand Rémi m'a demandé de faire partie du jury, j'étais très surprise.
Vous avez un permis?
Je ne suis pas spécialiste. Oui, bien sûr, j'ai un permis.
Sortez-le.
Oui, je peux vous le sortir. Depuis très longtemps.
Alors, je ne lui ai pas dit ça.
Mais c'est vrai que c'était en fait, au départ, il y a une vingtaine d'années, j'ai dû commencer dans ce jury, c'était vraiment l'esthétique, c'est-à-dire le plus beau livre, la plus belle photo, qu'est-ce qu'on a d'autre, plus beau film publicitaire, l'architecture, etc.
Oui, c'est vraiment, c'est l'automobile et toutes ses dépendances.
Et l'esthétique d'une voiture, c'est vrai que ça me touche, parce que c'est quelque chose de... parce que j'en conduis depuis que j'ai 18 ans, et que pour moi, c'est très important. Donc, c'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus sur le design, et qu'il y a une vingtaine d'années, on parlait moins de design automobile. Et je trouve ça formidable. Je trouve formidable qu'on s'intéresse à ce point, justement, au design et à l'esthétique.
Mais vous, est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce qu'un jour, alors qu'on vous connaît plutôt sur la lingerie, bien que vous ayez aussi travaillé récemment sur des broches, vous avez fait plein d'autres choses. Récemment, on en avait parlé d'ailleurs, ici même, vous avez travaillé sur des bouteilles de vin, surtout avec un domaine viticole. Est-ce que... un jour, vous imaginez peut-être verser du côté de l'automobile, ou est-ce que vous avez déjà approché ce design-là?
Écoutez, c'est quand même excessivement technique. À la limite, je pourrais conseiller sur un intérieur vu d'un œil féminin, mais je pense qu'il y en a qui le font très bien. Maintenant, il y a des designers femmes aussi dans vos équipes. Mais c'est vrai que dessiner, moi j'ai vu ce qu'il faisait quand même, hein, puisque je faisais partie du jury, je me sens pas de le faire.
Non. C'est très technique,
c'est excessivement technique. Et mais ceci dit, dans mon métier, dans la lingerie, il y a de la technique
aussi.
Bien
sûr aussi.
Alors, ce sont des techniques différentes, mais je pourrais très bien décider de donner des couleurs, des idées de couleurs, donner des idées d'intérieur,
De tissu, par exemple. Ça, on pourrait imaginer. Alors, effectivement, on parle depuis tout à l'heure de concept car, Mathias Hossan. Vous êtes responsable concept car chez Peugeot. À quoi ça sert? On disait finalement, on a l'impression que c'est assez récent de faire des concept cars, en tout cas de les montrer comme ça au grand public. À quoi ça sert de faire des concept cars qui, pour certains, ne sortiront jamais?
Alors, le but d'un concept car, je dirais que c'est un laboratoire d'idées, de recherche pour un constructeur. Afin de tester des nouvelles technologies, on parlait de matériaux, de nouveaux matériaux, de nouvelles formes aussi, et d'une certaine manière de les tester auprès du public. Donc c'est, je dirais que c'est le but premier en fait d'un concept car.
Et ça veut dire qu'on n'a aucune limite quand on fait un concept car?
Alors c'est vrai qu'à l'instar, je dirais, de la haute couture, d'une certaine manière...
C'est la haute couture de la mode, en fait,
exactement,
un concept
exactement. Souvent, on dit que c'est la haute couture, de l'automobile.
Du prêt-à-porter comparé au prêt-à-porter.
Exactement. C'est vrai que dans un véhicule de série, bon, il y a un champ de contraintes qui est assez élevé. Et donc, sur un concept car, on peut se permettre des choses qu'on pourrait peut-être moins se permettre sur un véhicule de série pour des raisons de coût, des raisons des contraintes aussi
De faisabilité, de fonctionnel.
Tout à fait.
Et sans doute financière aussi.
Exactement. Et donc, explorer, en fait, via un concept car, ces nouvelles formes, ces nouveaux matériaux, ces nouvelles technologies, peuvent faire bouger aussi les lignes, d'une certaine manière. Hein. Parfois, ça permet de faire évoluer ce champ de contraintes. Et ça permet, pour une marque, et chez nous, Peugeot, de s'exprimer de manière, en effet, un petit peu plus libre.
Le concept car, c'est une boîte à outils, c'est-à-dire que ce n'est pas la voiture en soi qui sera développée, mais parfois juste certains éléments de cette voiture qui vont permettre, eux, d'avoir un avenir un peu plus sériel, un peu plus linéaire. Ce n'est pas la voiture qu'on va répliquer, mais tout ce qu'on a pu y développer, j'allais dire, du rétro jusqu'au pot d'échappement.
En fait, le pot d'échappement aujourd'hui. D'une certaine manière, il y a plusieurs typologies de concept car. On a des démonstrateurs technologiques. On aura par exemple 308 R Hybrid qui sera présente au festival, qui pour le coup est là un démonstrateur technologique. Donc on a travaillé une chaîne de traction avec Peugeot Sport pour faire un véhicule extrêmement performant. Et à la fois, on aura aussi Fractal, où là, en effet, c'est un véhicule qu'on ne verra jamais tel quel dans la rue. Néanmoins, certains éléments pourront, à un moment donné, être appliqués sur un futur véhicule de série.
On reviendra quand même sur ces deux concept cars dans un instant. Quand même, vous allez nous raconter un petit peu ça. On va voir un petit peu ce qui se passe au festival en avant-première. Vous êtes passé par une école de design, notamment par l'école de design Strat, représentée aujourd'hui par Mike Lévy, directeur du département transport et mobilité. Par rapport à ce que disait Chantal Thomas tout à l'heure, vous, c'est votre spécialité, hein, transport et mobilité dans cette école de design. Qu'est-ce qui est différent quand on est designer tout court et designer spécialisé transport et mobilité? Qu'est-ce qu'il faut acquérir en plus?
Je pense que le premier élément, ça va être le dessin. Je pense que la première chose que les constructeurs viennent rechercher, c'est la capacité à dessiner. Et par la capacité à dessiner, je pense que ce que les constructeurs recherchent, c'est la capacité à travers le dessin à faire passer des émotions, à charger émotionnellement une forme, qu'il s'agisse d'un dessin ou d'une maquette ou d'une sculpture. Parce que je pense que ce qui est particulier par rapport aux produits automobiles, c'est que finalement on est sur de la tôle pliée et du plastique, grosso modo. Et que quand les gens regardent ça, ils ressentent des émotions, ils ressentent un rapport avec cet objet dans lequel ils se projettent. Et je pense que c'est ça qui est très spécifique au design automobile. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un objet qu'on apprécie de l'extérieur et de l'intérieur. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, on est dans ce cas de figure, on est sur des proportions par rapport à l'être humain qui permettent de s'approprier le volume de l'objet à l'extérieur et de le vivre à l'intérieur. Un train, par exemple, ce n'est pas le cas, on le vit principalement de l'intérieur puisque l'objet est d'un tel gigantisme qu'on n'a pas la possibilité de l'apprécier de l'extérieur. Donc on est vraiment sur un domaine de compétences qui requiert un regard aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur, et d'ailleurs à tel point que c'est des métiers qui sont sous-spécialisés, puisqu'on a des gens qui s'occupent de plus en plus soit de l'extérieur de la voiture, soit de l'intérieur de la voiture. Et ça se sous-segmente encore plus, puisqu'on a des gens qui, sur l'intérieur, vont travailler sur du détail, qui vont travailler sur des interfaces. À l'extérieur aussi, des gens qui vont travailler sur les phares, sur les roues, sur des éléments en zoomant vers le détail, puisque c'est ce qu'on recherche.
Alors, on reviendra sur tous ces détails dans un instant.
Je suis tout le cursus, là.
Oui, exactement. Bon, on va voir tout ça dans un instant. Mais d'abord, on fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite pour Woodlux.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Woodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et le design automobile à l'honneur cette semaine à l'occasion du Festival Automobile International qui se tiendra le week-end prochain aux Invalides à Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Rémi Depoix, le fondateur de ce festival, de la créatrice Chantal Thomas, de Mike Lévy, directeur du département transport et mobilité de Strat École de Design et de Mathias Ossan, responsable des concepts car chez Peugeot. Juste une petite question sur ce festival automobile international, Rémi Depoix. Dans le premier quart d'heure, on a vu déjà se dégager des petites choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses autour de l'électrique, finalement. Et au-delà du design, les concept cars, aujourd'hui, vraiment, tirent beaucoup vers l'électrique, même dans les marques haut de gamme ou dans les marques de luxe. Hein.
Oui, oui, tout à fait. On le constate dans les concept cars qui sont présentés, qui sont souvent électriques. Mm-hmm. C'est une projection du constructeur dans l'avenir. Donc effectivement, il faut y voir un développement important. Il y a des marques comme Tesla qui ont fait une certaine bonne approche sur ce marché, bien que ça reste limité par rapport aux grands constructeurs. Tous les constructeurs aujourd'hui, bien sûr, regardent les nouvelles énergies, dont l'électrique. Et effectivement, il y a une tendance importante dans ce domaine.
Là, on est encore un peu dans la matérialisation par l'électrique. Mais globalement, d'ailleurs, je vous écoutais dans la première partie de l'émission, on parle beaucoup de design, de dessin, d'esthétique, d'émotion, de forme. Est-ce que tout de même, il n'y a pas une emprise, une mainmise désormais de l'esthétique dans l'automobile et de moins en moins ce souci de la performance, de la motorisation? On a de plus en plus, quand on vous écoute parler tous, l'impression que l'automobile est une mode comme les autres, est un intérieur, est un décor comme les autres, et de moins en moins une affaire finalement de motorisation. Est-ce que, à moi, titre personnel, je le regrette, mais est-ce que c'est parce que la sociologie de l'époque a changé et que vous devez aller vers ce souci esthétique et qu'on en oublie un peu ce qu'il y a quand même sous le capot? Parce qu'on parle, à chaque fois qu'on fait des émissions, on ne parle plus du tout de performance.
On l'oublie pas, mais ce qui est excitant, c'est la vitesse. L'apologie de la vitesse, on peut pas la faire aujourd'hui.
On peut pas la faire, mais on peut parler de vitesse, on peut la raisonner.
Mais bon, on parle d'élégance, de beauté. Le premier critère d'achat aujourd'hui des consommateurs, ce sont les lignes et l'esthétique. Mmh. Voilà. Et les voitures, c'est vrai qu'elles sont quasiment parfaites aujourd'hui, en termes de châssis, de motorisation, à budget égal. Finalement, bien qu'on essaie de nous faire comprendre l'inverse, aujourd'hui, on s'intéresse à l'automobile, on aime l'automobile, et il y en a beaucoup qui ont envie de se faire plaisir au travers d'une belle automobile. Donc, effectivement, on parle moins de performance, on parle de design, parce que c'est ce qui est le plus important. Je dirais que aujourd'hui, n'importe quelle voiture peut aller à 130 et bien plus, elles sont extrêmement solides, elles consomment de moins en moins. Alors même si on parle beaucoup en ce moment de tous ces problèmes de consommation,
on en parle la semaine sur BFM Business. Mais,
effectivement, en tout cas, en ce qui concerne ce festival, on parle de beauté et d'élégance. On le compare même souvent à la Fashion Week du design. Design automobile, pourquoi ? Parce que ça se passe à Paris, dans un lieu très prestigieux, et que les designers viennent présenter leur dernière création comme la mode.
Et vous qui êtes un grand témoin de ce festival, puisque vous l'orchestrez depuis quelques saisons, j'imagine que le public qui vient observer, découvrir, admirer parfois les modèles exposés, a changé, c'est plus tout à fait le même. J'imagine qu'il y a quelques saisons, c'était quand même des fous de mécanique. Aujourd'hui, on est moins dans l'univers Top Gear que peut-être plus féminisé, plus jeune.
Oui,
je suis un gros macho, c'est pas grave. Je pense qu'il y a quelques années, il ne devait pas y avoir beaucoup de demoiselles qui allaient voir des concepts car aujourd'hui,
Madame
je pense
Thomas,
que ça a changé.
Mais je pense que Rémi avait bien senti les choses, parce que c'est pour ça qu'il m'a fait venir dans le jury. Parce qu'il trouvait que l'œil d'une femme était intéressant.
Mais je pense qu'effectivement, le public, oui ou non, a changé.
Le public a changé, il est beaucoup plus connaisseur et aujourd'hui, effectivement, il ne va pas ouvrir le capot pour savoir s'il y a un V6, V8, V12. C'est moins le problème. Là, on a vraiment souvent des passionnés d'automobile qui viennent voir ces voitures qui sont uniques et qui passent parfois une heure autour de la voiture à la photographier.
Est-ce que disait tout à l'heure Mike Lévy dans le moindre détail, Mathias Ossan, vous qui travaillez chez Peugeot dans les concept cars, est-ce que c'est vrai ce que disait Emmanuel tout à l'heure? Est-ce qu'on vous intéressez davantage à la ligne, au détails, ces petits détails qui feront la différence à l'esthétique, à l'élégance, que finalement ce qu'il y a sous le capot. Mais je crois que ceci dit que vous allez très loin parce qu'on parlait aussi d'odeur, de son. dans la fractale, par exemple, vous allez très loin.
Alors, je dirais qu'avant, on pouvait beaucoup parler de performance. Aujourd'hui, on va parler d'expérience, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quelle expérience, demain, un consommateur va pouvoir vivre à travers son véhicule. Et c'est ce qu'on a recherché, notamment à travers Fractal, qui est un véhicule électrique, on en parlait. Et justement, l'idée, c'était de se dire, demain, quelle émotion vais-je pouvoir tirer de mon véhicule électrique ? Pendant très longtemps, posséder un véhicule électrique était une sorte de renoncement au plaisir automobile. Ce qu'on se dit, c'est que demain, justement, on va réinventer ce plaisir, et notamment en travaillant le son que peut produire un véhicule électrique, et rechercher justement de nouvelles émotions, et non pas mimer celles qui pouvaient nous faire peut-être fantasmer les bons vieux V6 ou V8, justement, mais réinventer des nouvelles
sensations.
Vous
avez travaillé sur la spatialisation du son.
Tout à fait.
Exactement, vous avez travaillé avec un DJ.
Exactement.
Architecture sonore, donc.
Alors, ouais. Quelque part, notre travail au quotidien, c'est de mettre en forme, justement, des concepts. On n'est pas des spécialistes du son. Donc, pour ce faire, nous avons fait appel à Amon Tobin, qui est un designer sonore, d'une certaine manière. Il est au-delà du DJ, je dirais, qui compose des morceaux en enregistrant des sons. Donc, c'est quelque chose d'assez expérimental. Et donc, on lui a demandé de réinventer tous les sons que pouvait produire une automobile, de l'ouverture de porte jusqu'au clignotant, au son de warning, pour justement nous plonger dans une nouvelle expérience automobile.
Pour bien comprendre ce qu'est un concept car, là vous présentez effectivement, entre autres, cette fameuse fractale à l'esplanade des Invalides, c'est combien de temps à développer? À partir de quel moment vous avez commencé à réfléchir à ce concept car, à le dessiner? Pour jusqu'à être présenté, là, d'ici quelques jours, ça a pris combien de temps?
Alors, c'est vrai, on parlait de haute couture, Un concept car, c'est un temps extrêmement contraint à l'échelle d'un développement d'un véhicule de série. Fractal, c'est environ 9 mois de travail. Du premier croquis jusqu'à la voiture.
C'est hyper rapide.
Jusqu'à la voiture, vous pourrez voir justement aux Invalides. Donc, 9 mois de travail, c'est extrêmement court à l'échelle d'un développement automobile. Et
effectivement, là, on peut faire le rapprochement avec la mode. On met combien de temps pour il faut combien de temps pour sortir une collection, Chantal Thomas?
On en sort deux par an, mais entre à peu près. En fait, on commence 9 mois à l'avance aussi, à peu près, mais pour toute une collection.
Et oui, c'est ça. Qu'est-ce que si à l'inverse, toutes ces années que vous passez auprès des designers automobiles, qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce que ça vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous voyez peut-être un petit peu les choses autrement aussi, justement dans le dé- dans la perception des choses et du design?
Oui, je pense que je les vois de toute façon différemment dans la mesure où j'ai appris en rencontrant tous ces gens. Mais je garde quand même une espèce d'innocence. Une voiture, pour moi, doit être esthétiquement me correspondre. Je pense qu'on a des styles de voiture qu'on aime, en fait. Comme on a des styles de vêtements, on a un style en général.
Quel style de voiture vous correspond?
Bon, alors moi, les petites voitures me correspondent parce que je conduis dans Paris.
Parce que c'est une citadine, une parisienne.
Donc, moi, c'est une citadine, oui. Et puis, alors après, il y a un certain confort à l'intérieur. Une esthétique, évidemment, quelque chose d'esthétique par rapport à ce que j'aime. Des couleurs. Et puis après, des matériaux. C'est vrai que dans les matières de siège, on n'a pas encore fait des merveilles. C'est sympa, c'est simple, mais il y a encore, je pense, pas mal de choses à faire. Et puis après, le confort. Mm-hmm. Alors le confort, c'est le nombre de trucs pour ranger ses affaires. Pour les filles, c'est pas encore ça. Moi, je vous dis, il manque toujours le miroir, le truc, la pochette pour mettre le... Il manque des choses.
Il faut un peu conduire aussi, quand même.
Oui, je sais bien, mais enfin, il y a beaucoup de feux rouges.
D'embouteillage.
On parle de plus en plus d'une voiture
donc
qu'on conduira.
Donc, on peut quand même
plus.
Faire d'autres choses. Non, mais c'est vrai que pour une femme, on voit plus, en général, un côté esthétique. Oui. Mais les femmes, très souvent, font partie de l'achat de la voiture, quand même, ouais, pour un couple. Sûr.
Mais ce qui est intéressant dans le jury de ce festival, c'est que justement, il y a des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes et qui apportent, un regard différent, des anglais, et finalement, beaucoup de bon sens. Alors vous, on ne va pas dévoiler, puisque c'est aussi une manière de concours d'élégance contemporain, on ne va pas dévoiler quels sont les futurs vainqueurs, mais cette année, quelle était la grille de lecture qui a été la vôtre lorsqu'il fallait jauger de tous les modèles qui vous ont été présentés?
Alors moi, c'est vraiment par exemple, dans les croquis des designers, il y avait des croquis qui me parlaient et d'autres qui ne me parlaient pas du tout, c'est tout. C'est vraiment instantané, ça me plaît. J'ai beaucoup de mal par rapport à leurs croquis, parce que c'est quand même très technique, terriblement technique. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce que sera la voiture. Mais par contre, je peux dire que ça, l'esprit me plaît, me correspond. Mais peut-être que la personne qui juge à côté de moi, ça va penser différemment. Elle va être attirée par quelque chose d'autre. Mais je pense que quand on choisit une voiture, on choisit aussi comme ça. Je veux dire, c'est
un peu au feeling.
Mike Lévy, justement, l'histoire du dessin, vous nous en parliez un petit peu tout à l'heure, qui va aller jusque dans les détails. On apprend à dessiner une automobile. On ne dessine pas une automobile comme on dessine une collection de mode.
Non, bien sûr, on apprend.
Surtout, elle ne dessine pas seule, je pense.
Alors, non, en fait, à l'école, on incite beaucoup nos étudiants à travailler en équipe, effectivement, parce que c'est aussi un travail d'équipe et on doit aussi détecter des gens qui sont à même de travailler en équipe et de se mettre derrière un projet, dans la notion de projet. Après, le dessin, on a toujours considéré que, bon, c'est un élément essentiel du process de designer, mais ça reste un outil de communication.
D'accord.
C'est-à-dire que, voilà, c'est une façon de faire passer ses idées. Mais derrière, ça reste un outil de communication et il y a une réflexion autre en amont d'un projet. Il y a des tendances qui sont analysées, il y a un état des lieux qui est fait aussi de la société, de la façon dont les gens vivent, etc. Donc voilà, le dessin est au service quelque part du processus de design et en est la matérialisation qui permet de communiquer les idées.
Et qu'est-ce qu'on en fait après du dessin? Pour arriver au concept car final, est-ce que, comme pour n'importe quel objet, il y a des maquettes, il y a des...
Je pense que Mathias sera plus à même. Dans l'école, oui. Dans l'école, on passe par de la modélisation 3D, on passe par un travail de maquette physique, de petites maquettes à l'échelle 1/5 qui permettent de juger des proportions, ou de maquettes de l'intérieur aussi, qui permettent de juger aussi de problématiques ergonomiques, etc. Mais on ne fait que reproduire finalement à l'échelle de l'école ce qui se passe dans l'industrie pour que nos étudiants puissent être à même d'évoluer ensuite dans cette industrie.
Mais ce qu'évoquait Mathias ce soir il y a quelques instants, vous qui êtes dans une école, aujourd'hui, lorsqu'on active une automobile et un concept car, c'est des nouveaux corps de métier qui interviennent. On parlait d'architecture sonore. Quels sont aujourd'hui les grands champs, les champs du possible, et quelles sont les professions qui vont être amenées demain à activer le monde automobile et son futur que l'on n'attendait pas il y a quelques années, qu'on n'imagine même pas au-delà de l'architecture sonore. On a parlé aussi de références olfactives, ça va bien au-delà de la tôle, finalement,
et du plastique.
Oui, je schématisais parce qu'effectivement, c'est rendre justice au métier de designer, de se rendre compte qu'effectivement, à travers une tôle qui est peinte, on arrive à susciter des choses qui sont très fortes. Je parlais de la segmentation des métiers, de métiers qui sont de plus en plus complexes. Je pense que à travers l'expérience que les gens vivent, dont parlait Mathias, on rentre aussi dans des champs. On a un département de design d'interaction à l'école qui
permet. C'est quoi le design d'interaction?
C'est tout ce qui va toucher à l'expérience utilisateur, c'est tout ce qui va toucher aux interfaces, c'est tout ce qui va toucher aux objets connectés, c'est tout ce qui va toucher à tout ce monde numérique du 21e siècle. Et je pense qu'un des gros enjeux, c'est comment ce monde et l'appétence qu'ont les gens. Que les gens ont de ce monde connecté, comment il interfère quelque part avec l'automobile et comment est-ce que ça va générer des expériences nouvelles. Et je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations là-dessus en ce moment. Et c'est ce qu'on voit à l'école.
Justement, sur la fractale, combien de personnes sont intervenues? Vous l'avez dit, hein, 9 mois entre le premier jus de cerveau et la réalité de ce concept car, et combien de personnes qui activent?
Je dirais que l'équipe, il y a une petite équipe qui est formée, un petit noyau dur d'une quinzaine de personnes, et quand on arrive à la stade de fabrication de l'objet, il y a quasiment une centaine de personnes qui vont graviter autour de l'objet pour réaliser.
C'est quand même des gros enjeux. On a le sentiment parfois, pour les novices, on se dit ils se font plaisir, mais derrière, en fait, c'est vraiment des gros, gros enjeux.
Il y a des enjeux, c'est-à-dire que c'est l'expression de Peugeot vis-à-vis du public sur un potentiel futur. Donc, quelque part, c'est pas juste un plaisir de designer, mais on travaille bien pour la marque Peugeot et une expression de celle-ci pour demain, en fait.
Mm-hmm. Justement, la question du numérique dont on parlait à l'instant, de quelle manière vous l'appréhendez? C'est quoi le... Parce que là, vous nous parlez de ce concept car on l'a déjà un petit peu vu dans la presse, dans d'autres salons, mais le prochain, justement, vous tendez vers quoi, justement, sur ce questionnement autour du numérique?
Alors, malheureusement, je peux pas vous dévoiler.
Je sais que vous pouvez rien dévoiler, mais sur quoi vous, comment vous sentez? Est-ce que c'est ce que disait à l'instant Mike Lee, c'est sur cette nouvelle approche qu'on va avoir de l'automobile qui se conduit toute seule?
Je pense que ce qui est intéressant pour un designer d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vivre une révolution, je pense, qu'on n'a pas vécu ces 100 dernières années. dans le monde automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de voitures connectées, on parle de voitures autonomes. C'est-à-dire que c'est la grande question.
C'est justement l'anti-voiture, quoi.
C'est la grande question du moment. Alors, on pourra revenir dessus sur l'anti-voiture. Je pense justement le contraire sur ce sujet-là.
Je vous réinvite dans un mois. On aura bien une occasion.
On parle de nouveaux matériaux, justement. Donc de nouveaux usages associés à cet objet automobile. Pour parler de voiture autonome, justement, quelque part, je pense qu'on va réinventer le plaisir automobile et le plaisir de conduire, parce que quelque part, on va pouvoir choisir, d'une certaine manière, ses phases de conduite et ne plus être contraint, dans un milieu urbain, de devoir être au volant de sa voiture lorsqu'on pourrait potentiellement faire autre chose.
Donc on pourra se remettre du rouge.
Oui, dans les embouteillages, par exemple.
Voilà.
Dans les embouteillages, on laissera la voiture se conduire toute seule et pendant ce temps-là, on se remaquillera. Oui.
Voilà,
oui.
Impeccable. Et
sur l'autoroute, on pourra
lire.
En mode automatique. Et puis à un moment, on a envie de reprendre la main.
Ouais.
Quelque part, c'est toute la partie, potentiellement, toute la partie utilitaire de la conduite qui va être enlevée. Et donc c'est un champ très intéressant pour les
marques.
On parle de designer, mais pas seulement. Je pense que c'est tout un nouveau champ pour les marques qu'elles vont pouvoir investiguer pour trouver des nouveaux imaginaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est comment ce qu'on va connecter de l'usage et de l'imaginaire.
Eh ben, on n'a pas fini d'alimenter le Festival Automobile International avec tout ça. En attendant celle de l'année, on les connaîtra les plus belles voitures, les plus beaux intérieurs. On les connaîtra le 26 janvier au soir et on ira voir tout ça du 27 au 31 janvier aux Invalides. Merci infiniment à vous, messieurs, dames. Donc Rémi Depoix, fondateur du Festival Automobile International, la créatrice Chantal Thomas. Merci beaucoup à vous. Mike Lévy, directeur du département transport et mobilité de la Strat École de Design, et Mathias Hossan, responsable des concepts car chez Peugeot. Merci beaucoup à tous les quatre. Allez, restez avec nous. Good Lux continue dans un instant sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Lux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et à cette heure-ci, dans Woodlux, c'est l'heure de l'agenda. Mais tout d'abord, notre livre de la semaine. Emmanuel, je vous présente les bijoux d'Elsa Triolet. Eh oui, figurez-vous qu'Elsa Triolet, le livre s'appelle « De neige et de rêve », les bijoux d'Elsa Triolet aux éditions Duchesne. Donc Elsa Triolet, compagne donc de Louis Aragon, mais pas seulement, eh bien, elle a été vraiment parurière à un moment donné. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'ils se sont rencontrés entre deux guerres, elle devient parurière pour la haute couture. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle crée véritablement des colliers entre 1929 et 32. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ces colliers leur ont même permis de survivre parce qu'elle les a vendus. C'est elle-même qui démarchait. Elle a beaucoup travaillé, notamment avec Schiaparelli. C'est elle-même qui allait les démarcher. Alors, on n'est pas dans de la haute joaillerie, attention. On est presque dans des bijoux de pacotille parce que ce seront des boules de cotillon sur une chaîne de cuivre. Ce sont des joncs de coton recouverts de peinture nacrée, des perles de galalite ou de bakélite, mais c'est hyper inventif. Par exemple, elle va imaginer une perle qui fait fermoir. Et c'est inspiré art déco, art africain. C'est ce que collectionnait déjà Louis Aragon. Et donc, on retrouve un véritable savoir-faire qu'on n'imaginait pas.
Bijoux fantaisie à l'époque, mais qui auront, et finalement, qui seront assez repompés, on peut le dire, dans les années 60-70, au moment de l'émergence du prêt-à-porter. Et quand on voit les bijoux que pouvaient travailler des Cardin, voire des Saint-Laurent, ils sont très proches de ce qu'elle dessinait 30 ans plus tôt. C'est le grand âge d'or, ou plutôt c'est l'archéologie du bijou fantaisie qui aujourd'hui encore, avec de la bakélite, avec des pierres semi-précieuses, réussissent très bien. Non, elle a un temps d'avance.
Et elle est quand même passée par les Beaux-Arts de Moscou, hein, Elsa Triolet, et on rappelle bien sûr qu'en 1944, elle a eu le prix de Goncourt pour la première fois attribué à une femme. Et donc ce livre s'accompagne d'une exposition que vous pouvez encore voir jusqu'au 3 avril 2016, donc au Musée d'Art, Histoire et Archéologie d'Évreux. Et d'ailleurs, les trois auteurs ont travaillé aussi sur cette exposition, Florence Calame-Levert, conservateur du patrimoine, Coralie Caden et Dominique Chélot pour cet ouvrage. Il est absolument magnifique parce qu'on retrouve...
Ça remet les choses un peu à niveau. C'est-à-dire que c'est une femme d'esprit, vous venez de le dire. Mais en plus, c'était aussi une créatrice qui rendait hommage finalement aux beaux gestes, à l'artisanat. Alors que M. Aragon, c'était juste un homme d'esprit. Dès qu'il fallait faire des bijoux, il n'y avait plus personne.
En tout cas, un très beau petit ouvrage, De neige et de rêve, les bijoux d'Elsa Triolet, c'est sorti aux éditions Duchesne. Allez, l'agenda.
Good Lux Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Alors bien sûr, on a énormément parlé automobile, Emmanuel, pendant cette émission, mais plutôt les autos de demain et les autos d'hier. Elles seront présentes bientôt à Paris avec Rétromobile.
Avec bien sûr ce grand, cette institution désormais qui est Rétromobile. Et vous savez qu'en prémisse et en parallèle de Rétromobile, il y a toujours une grande vente de belles mécaniques orchestrées par la maison Arcurial. Alors, les dates. Tout d'abord, tout va se dérouler entre le 5 et le 6 février. Et c'est vrai que Arcurial éditorialise de plus en plus ses ventes avec deux temps forts. Tout d'abord, le 5 février, la dispersion d'une automobile qui sera présentée à Rétromobile. Donc allez la voir. J'allais dire, c'est un des cultes roulants. Aujourd'hui, on n'en voit plus. C'est une pièce exceptionnelle. La Ferrari 335 S de 1957. Alors, bien évidemment, allez chez Arcurial, rond-point des Champs-Élysées. Essayez de vous procurer le petit fascicule. Le catalogue, c'est une monographie du genre. Elle nous raconte les dessous de cette automobile qui est bien sûr plus qu'une histoire mécanique.
Un catalogue entier pour la Ferrari 335 S de 1957.
La Scaglietta, n'oublions pas que c'était une voiture de course, piloté par quelques-uns des plus grands pilotes de l'âge d'or automobile, à commencer par un certain Maurice Trintignant, le père de Jean-Louis Trintignant, formidable automobile. Alors tout le monde en parle parce qu'on dit qu'elle va battre les records de vente pour une automobile lors d'une maison de vente. Mais moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'autre vente, c'est la dispersion de la collection Citroën d'un certain Trigano. Trigano, vous connaissez. C'est bien sûr le camping Trigano, l'hôtellerie, le Club Med. Et André Trigano, il avait une passion pour Citroën. C'est pas étonnant, Citroën, c'est vraiment la marque automobile française qui accompagne les 30 Glorieuses, l'âge d'or automobile. Et donc, il y a une collection exceptionnelle qui sera exposée et dispersée. Là encore, je vous renvoie à aller au rond-point des Champs-Élysées. Essayez de vous procurer ce catalogue. C'est une petite monographie, là encore, de l'esprit Citroën. Alors, avec certains véhicules cultes, on ne va pas reparler de la fameuse DS19, DS21, mythifiée dans les mythologies de Roland Barthes. On ne va peut-être pas évoquer 1968, la fameuse Méhari. Mais vous allez voir que Citroën, c'est une histoire qui commence beaucoup plus tôt, avec des véhicules que moi, je n'imaginais même pas. Alors, la célèbre trèfle torpédo, des véhicules dans les années 40, dans
et
les années 50.
Et donc, quand est-ce qu'elle a lieu, cette vente Citroën?
Alors, la vente Citroën, elle a lieu le 6 février, elle est exposée deux jours plus tôt, avec des modèles exceptionnels. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous l'avais déjà dit, hein, aujourd'hui, les voitures des années 80 deviennent les nouveaux classiques, les nouveaux vintage, avec notamment ce moment inoubliable, cosmique, la vente et la dispersion de la Citroën Visa 1000 pistes, 1984.
Visa. Magnifique.
Ce qui est étonnant, c'est que je l'ai eu, et que j'ai plié cette voiture.
Eh ben voilà, vous avez eu ce que vous avez
pris. Vous vous rendez compte que j'ai perdu?
Très rapidement, Emmanuel, il y a une autre vente automobile à signaler.
Oui, alors,
le 3 février.
Bonhams, c'est une grande maison d'enchères qui disperse parfois beaucoup d'automobiles, parfois souvent, mais à l'étranger. Ils sont associés à Paris avec Sotheby's. Le 3 février, chez Sotheby's, Paris, toujours même quartier, du côté du rond-point des Champs-Élysées, dispersion de la vente Sotheby's Bonhams. Et notamment là, ça sera le petit bonheur, non pas des citroënistes, mais des porschistes, avec quelques pièces absolument uniques.
On en reparlera de ces ventes automobiles, et notamment de Rétromobile et de la vente Arcurial, le vendredi 29 janvier, avec Mathieu Lamour, le spécialiste automobile, dans Good Luck Paris. Ce sera à 14h. Allez, une petite info, il est temps de se mettre au sport. Emmanuel, la maison Merci Boulevard Beaumarchais vous propose une exposition qui dure jusqu'au 15 février. Il y a une salle de sport au rez-de-chaussée, mais aussi la mise en avant de tous ces sports citadins, urbains. Évidemment, il y a tout ce qui va avec, les sélections de recettes healthy et détox. Le sport et soi, le sport et le mental, le sport et la santé, voici le programme. Et on retrouve par exemple comme objet assez incroyable des skateboards fabriqués à partir de filets de pêche recyclés. Et oui, des produits connectés comme le maillot de bain Cardo, véritable booster de silhouette, ou aussi les chaussons de danse de l'Opéra de Paris. Voilà tout ce qu'on peut trouver chez Merci. Et avec ça, si vous ne vous mettez toujours pas au sport, c'est que vous n'avez rien compris. Allez, très rapidement, le plus grand resto éphémère de Paris.
Oui, 16 février prochain, Grand Palais, pour la deuxième fois consécutive, le Test of Paris. Test of Paris, c'est une sorte de festival culinaire qui a été lancé à l'étranger et qui cartonne notamment à Londres, qui s'est installé l'année dernière à Paris, qui reprend cette année. Alors effectivement, beaucoup de masterclass durant 4-5 jours, beaucoup d'animation, mais surtout, on peut dire peut-être le plus grand restaurant éphémère du moment, avec pas moins, je crois, de 18 chefs qui représente la scène parisienne. Alors, on va donner quelques noms. Frédéric Anton, Précatelan, Guy Savoy, Pierre Samboyer pour la Jeune Garde, Thibaut Sombardier pour la Jeune Garde. Une femme, laquelle, je ne sais même plus.
Stéphanie Lequelec, non?
Stéphanie Lequelec, exactement. Elle orchestre le restaurant du Prince de Galles. Tous se retrouveront, C'est un peu compliqué, hein, parce que ça commence du matin jusqu'au soir, avec des tickets qu'il faut prendre. Ce qui est important, c'est réserver sa place. Alors, je vous donne le site web qui va aller bien. C'est le www.paris.testfestival.com. Je ne suis pas doué pour ça, mais bon, vraiment, réservez votre place, parce que si vous voulez jouer à ce petit jeu du ticket resto, ça va être compliqué si vous n'êtes pas, pas prêt à l'avance. Mais c'est vrai que quelques-uns, ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment un panorama avec les grandes pointures, la revanche des grands chefs, et puis toute la jeune garde. Bon, il faut aller voir. Peut-être qu'on les recevra, qui sait, dans une émission.
Merci beaucoup, Emmanuel Rubin. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit.
Je veux, mademoiselle.
Vous restez avec nous encore un petit peu. C'est le best-of de la semaine dans Good Luck. À tout de suite.